France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio Canada.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Présente.
La folie des années 80.
On est dans la merde en France. On est dans la merde.
C'est cela, oui.
25 millions de rubis cubes vendus.
I said I want to fuck her.
Oh, maman.
36-15 infogrammes, des milliers de pins à gagner.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Une série réalisée par Cécile Posse et Marion Guimette.
Année 1984.
En Inde, le nuage de la mort a littéralement décimé la ville de Bhopal au centre du pays. Une fuite de gaz dans une usine d'insecticides a provoqué en quelques secondes la plus terrible catastrophe écologique et humaine de tous les temps.
Symbole de la réconciliation franco-allemande à Verdun, la sonnerie aux morts pour les 700 000 soldats français et allemands tombés durant l'une des plus terribles batailles de l'histoire. François Mitterrand et Helmut Kohl se tenaient la main pendant qu'on jouait les deux hymnes nationaux.
Les soviétiques sont de fins diplomates. Ils ont dépêché Mikhail Gorbatchev en Grande-Bretagne pile au moment où il fallait. Son style, qui tranche avec celui des autres dirigeants soviétiques, mais aussi en affirmant que son pays était prêt à pratiquer un large désarmement.
Les sportifs soviétiques n'iront donc pas à Los Angeles et la décision semble irréversible. Un nouveau coup dur donc pour les Jeux Olympiques, un énième coup dur, car ça n'est pas la première fois que la politique interfère sur le sport.
Bonsoir à tous. C'est l'une des plus grandes victoires électorales de l'histoire des États-Unis. À 73 ans, Ronald Reagan, le conservateur, a été plébiscité par les Américains.
Nous devons continuer non seulement les quatre prochaines années, mais aussi les 10 suivantes et le siècle prochain pour atteindre nos objectifs, maintenir une croissance économique sans inflation et garder une Amérique forte.
En 1984, Ronald Reagan est réélu à la présidence des États-Unis pour un second mandat. Les années Reagan vont durablement marquer l'Amérique et le monde, nous en sommes encore héritiers aujourd'hui. Ronald Reagan ne s'est pas tout de suite dirigé vers la politique, il est né dans l'Illinois, dans une famille modeste, il entreprend des études qu'il réussit, il joue au football américain, il fait de la natation, il fait du théâtre, il devient animateur de radio, puis acteur.
Ronald Reagan, c'est une histoire américaine à lui tout seul.
Thomas Negaroff, journaliste et historien, spécialiste des États-Unis.
Dans la mesure où il a longtemps été un acteur à Hollywood, un acteur de western souvent, où il jouait pas forcément d'ailleurs les premiers rôles, il était souvent un second rôle, quelqu'un qui était quand même très connu des Américains.
Une carrière qui est un peu interrompu, si ce n'est brisé, par la guerre.
Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis.
Il sera mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne sera pas au combat puisqu'il est très myope. Donc il aura des travaux plutôt de bureau dans l'armée. Mais en tout cas, à la sortie de l'armée, sa carrière d'acteur marque un petit peu le pas.
Et puis il va effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, jouer un rôle important, en tout cas en termes de formation des soldats, puisqu'il jouera les speakers pour mettre en situation les soldats avant de partir sur le front. Il sera une sorte de voix aussi pour l'Amérique. Et cette voix de l'Amérique, elle va perdurer après-guerre. Quand il va commencer des activités syndicales.
Il va assez vite se lancer en politique. Alors d'abord côté Parti démocrate, puis côté républicain, assez vite. Et avant d'être président, il aura été le président du syndicat des acteurs, gouverneur de Californie, élu à deux reprises. Et puis il tentera sa chance plusieurs fois à la présidentielle.
Cette figure du comédien des années 40, 50 est en train de s'estomper progressivement et émerge une figure politique sans jamais vraiment étouffer ou sans jamais faire disparaître cette figure populaire qu'il a pu être. Parce que, un peu comme un Donald Trump aujourd'hui, hein, pour beaucoup d'Américains, notamment les plus âgés, il reste indissociable de l'image du cow-boy et du bon gars, hein, parce qu'il avait souvent des rôles de gentil dans les westerns qu'il incarnait à Hollywood avant d'entrer en politique.
Et puis il tentera sa chance plusieurs fois à la présidentielle et sera élu finalement la troisième fois en 1980. Ronald Reagan, quand il se présente, c'est vrai que beaucoup s'en moquent en disant « Ah ah, voilà un acteur de série B qui veut faire le président ». Mais c'est quand même ignoré qu'il a cette expérience politique de gouverneur de Californie, que c'est un poids lourd au sein du parti républicain. Et puis surtout, sa force, c'est qu'il est, il projette un optimisme, une foi en l'avenir qui fait totalement défaut à Jimmy Carter. Jimmy Carter a été très marqué pendant cette présidence par toutes les difficultés. On a vu vraiment cet homme qui était très souriant, très solaire, s'assombrir, ses traits se creuser. Et au fond, il respirait l'inquiétude et l'angoisse, avec particulièrement cette crise des otages qu'il ne parvenait pas à résoudre avec une tentative de libération militaire qui s'est soldée par un désastre, face à un Ronald Reagan qui, lui, respirait l'optimisme, la foi dans son pays, la confiance et qui promettait que tout irait mieux avec lui.
Ladies and gentlemen, Ronald Reagan.
Good evening.
Bonsoir. Je vous annonce que je compte me présenter sous la bannière républicaine à la présidence des États-Unis. Je ne vais pas assister les bras croisés à la destruction de cette grande nation.
L'Amérique va mal, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue géopolitique. C'est une Amérique véritablement dans le doute, j'allais dire dans le chaos, je dirais davantage dans le doute, qui a évidemment été frappée très durement par la crise économique des années 70, le choc pétrolier a frappé très durement l'économie américaine, avec une inflation très forte dans le pays, avec une croissance qui est en train de s'effondrer. On a ce qu'on appelle une stagflation, à savoir une stagnation de la croissance du PIB et une inflation en même temps, donc quelque chose d'inextricable dont n'arrive pas à se sortir l'Amérique à ce moment-là. J'évoquais une crise sociale parce qu'évidemment, il y a un chômage qui s'envole dans le pays. Il y a un doute aussi quasiment existentiel. On est quand même, n'oublions pas, à la fin d'une décennie qui a vu l'Amérique perdre la guerre du Vietnam, qui a vu son président, le président Nixon, démissionner dans un scandale politique. Donc c'est une Amérique qui s'est interrogée, qui a choisi comme président en 76 un démocrate, Jimmy Carter, élu sur un programme, bien sûr, de renaissance économique, mais surtout un programme de renaissance morale. Or, la renaissance morale, c'est difficile à quantifier. Bien sûr, c'est quelqu'un qui n'accepte plus les coups tordus de la CIA, par exemple. Mais par conséquent, l'URSS gagne du terrain en Asie du Sud-Est et en Afrique. Donc, d'un point de vue géopolitique, c'est aussi une Amérique qui recule. Et puis, évidemment, la grande affaire de la fin des années 70, c'est la révolution en Iran. La révolution en Iran avec comme corollaire les otages américains de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et c'est ça, vraiment, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui surtout met en lumière l'affaiblissement, le déclin de l'Amérique. Et c'est face à cette Amérique-là que Ronald Reagan se présente en 1980 comme celui qui pense pouvoir restaurer la grandeur de l'Amérique. Make America Great Again, c'est déjà le slogan en 1980. Et ce slogan, il entre en parfaite résonance avec une Amérique véritablement en plein doute, une perte de l'innocence politique, économique, sociale et géopolitique. Et lui arrive avec peut-être son passé de cow-boy, de redresseur de tort, avec cette image de celui qui peut rendre à l'Amérique sa grandeur.
Ronald Reagan, il a marqué la rupture avec plusieurs périodes. D'abord, il a marqué un vrai retour au pouvoir des républicains après une longue période où la vie politique était dominée par les démocrates, malgré la présidence de Richard Nixon, mais qui s'était quand même très, très mal terminée. C'est aussi la rupture avec une très longue période où l'on envisageait l'État comme le moteur, au fond, des réformes sociales et de l'intervention économique. C'est une rupture aussi avec une vision pessimiste, culpabilisante du rôle des États-Unis dans le monde, évidemment à cause de la guerre du Vietnam, essentiellement. Et on voit dans le gouvernement Reagan apparaître les premiers responsables néo-conservateurs, qui n'ont de conservateurs que le nom, mais qui sont plutôt des activistes en matière de politique étrangère, et dont le rôle augmentera dans les présidences républicaines suivantes. Et puis c'est vraiment la rupture avec, d'une façon générale, une vision sombre et coupable de l'Amérique. Ronald Reagan est celui qui redonne confiance dans les grands idéaux, dans les grandes valeurs du pays et dans l'idée que les États-Unis sont un pays exceptionnel et qui doit être un modèle pour le monde.
Je ferai tout pour redonner un avenir à notre pays. Avec vos prières et votre soutien, je suis convaincu qu'ensemble, nous parviendrons à honorer notre rendez-vous avec le destin.
This rendezvous with destiny.
Pour redonner un avenir aux États-Unis d'Amérique, Ronald Reagan va enclencher plusieurs réformes. Elles séduiront le monde et nous en sommes héritiers encore aujourd'hui.
Il arrive au pouvoir avec un outillage idéologique qui est celui de ce qu'on appelle l'école de Chicago, les monétaristes.
Thomas Snegaroff.
Qui a déjà d'ailleurs tenté de faire ses preuves depuis quelques années au Chili. C'est la libéralisation, c'est la disparition de maximum de l'État dans l'économie, c'est la baisse des impôts, une baisse drastique de la fiscalité. D'ailleurs, il lui arrive même de dire que s'il n'y avait pas d'État, bah finalement, on ne s'en sortirait peut-être pas si mal que ça. Donc, bien sûr, c'est parce qu'il n'est pas anarchiste, hein, mais parfois, il flirte un peu avec les libertariens, hein, considérant que l'État est vraiment un problème, que l'État en tant que tel est un problème dans la mesure où il nuit à la liberté individuelle et à la réalisation de l'individu.
Reagan avait une maxime, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème.
Ronald Reagan a rassemblé dans cette formule, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème, au fond ce qui était à l'époque un ras-le-bol de tout ce qu'avait donné la politique du New Deal de Franklin Roosevelt.
Nicole Bacharan.
Roosevelt, avec la crise de 1929, dans les années 30, donc avait initié les grands programmes sociaux du gouvernement et également une forte intervention dans l'initiative économique du côté du gouvernement. Et puis ça s'était transformé dans les années 60, particulièrement dans les années Johnson, avec les programmes de grandes sociétés, donc des programmes sociaux en matière de retraite, de santé, d'aide sociale de toutes sortes et des programmes très importants. Et finalement, quand on arrive à Ronald Reagan, il y a beaucoup de gens qui en ont assez, qui ont le sentiment qu'ils payent des impôts pour aider des gens qui ne voudraient pas travailler, que l'État intervient beaucoup trop, qu'il bride l'initiative. Reagan, c'est celui qui dit « moi, je vais libérer l'économie », en quelque sorte. Mais il accompagne un mouvement qui est déjà là.
Pour Ronald Reagan, l'aide de l'État entretient la paresse. Alors pour réduire considérablement cette paresse, il va se lancer dans une grande réforme économique. Fini les pensions, suppression des allocations de chômage et baisse des impôts de 30%.
C'est quelque chose qui l'habite vraiment à ce moment-là, depuis même son discours « Time for Choosing » de 1964. 64, on a déjà cette idée-là, hein, très présente, d'un État léviathan comme ça, qui vient trop puissant et qui, si on lui donne trop de pouvoir, vient détruire la liberté individuelle. Donc tout cela se nourrit aussi donc, par des baisses d'impôts extraordinairement importantes. Il faudra attendre Donald Trump pour voir des baisses d'impôts aussi importantes rapportées à la richesse nationale. Donc on est dans ces débuts des années 80 et puis une libéralisation de tous les secteurs, une libéralisation à tous les niveaux, sachant que pour Ronald Reagan et pour les idéologues qui l'entourent, la libre concurrence est la source de l'enrichissement de tous. C'est bon pour le consommateur parce que ça crée un cercle vertueux dans lequel la concurrence fait que les prix baissent. On est sur un modèle de ce type-là. On est vraiment avec Reagan dans une lecture presque parfaite, hein, du libéralisme et d'un capitalisme un peu sans foi ni loi aussi dans ces années-là. Tout ce qui est régulation bancaire, par exemple, va disparaître. On est dans un moment d'explosion, notamment de la bourse, permise par des lois également de dérégulation boursière qui permettent aux entreprises d'entrer plus facilement sur les marchés, aux citoyens d'avoir directement, par la désintermédiation, d'avoir directement accès aux marchés financiers. Bref, on est sur un modèle, et un modèle qui est aussi un modèle de désindustrialisation, parce qu'on crée des niches fiscales qui permettent aux entreprises d'aller délocaliser plus facilement et de relocaliser sans avoir à payer des taxes douanières importantes. Donc on est véritablement dans un moment où l'Amérique de Reagan va choisir de manière très claire la finance, le marché, plutôt que la production. Et c'est dans ces années-là que l'appareil productif américain commence à s'affaiblir, que les grands groupes industriels américains se délocalisent et souffrent quand ils restent à domicile. C'est un moment aussi de choix stratégiques qui peuvent être à l'origine de crises qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que les années Reagan, c'est vraiment la matrice de l'Amérique et du monde d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut reproduire chez nous, relocaliser, tout cela trouve son origine dans les choix des années 80 de l'administration Reagan, avec parfois même des choses un peu ubuesques. Hein. Par exemple, quand l'Amérique se rend compte que les voitures japonaises commence à envahir le marché américain. On est au tout début des années 80 sous Ronald Reagan et les petites voitures japonaises en particulier, faisant beaucoup de mal à General Motors, à Ford ou à Chrysler, les Big Three de Détroit. L'administration Reagan va imposer des quotas d'importation aux producteurs japonais. Les Japonais acceptent, mais pour les contourner, vont commencer à produire sur le territoire américain. Et ça va accentuer la crise économique des géants américains.
Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Antenne 2. À la une ce soir, nouvelle tornade sur la bourse, baisse de 9% à Paris, lundi noir également sur toutes les places financières européennes. Plus grave encore, ce soir, Wall Street est une nouvelle fois en chute libre à New York. Dans quelques instants, chiffres, analyses et commentaires.
Donc on est vraiment sur un moment où on ne sait plus trop comment faire de la production. Et on commence à voir d'ailleurs, dans les années 86-87 aux États-Unis, des grandes voix qui évoquent ce qu'on appelle parfois une économie casino, à savoir une économie qui marche toute seule, mais qui ne crée plus de richesse, avec des bulles spéculatives qui se mettent en place. Et le krach de Wall Street de 1987, à la fin de l'ère Reagan, mais en est la première expression, et pas la dernière, d'une Amérique qui ne produit plus et qui, au contraire, est en train de se mettre à la merci de ceux qui produisent, et en particulier le Japon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 87, notamment, aux États-Unis, on commence à voir les entreprises japonaises qui ont accumulé des bénéfices et des profits, racheter des tas de secteurs entiers de l'économie américaine. L'immense immeuble du Rockefeller Center à New York, par exemple, les pneus Goodyear, Universal, etc., sont rachetés par les Japonais. Ça va créer aux États-Unis un courant de panique. On va appeler ça le Japan bashing, on va dire du mal du Japon, qui ressemble un peu peut-être au mal qu'on dit de la Chine aujourd'hui. À l'époque, c'est le Japon. Le Japon nous rachète, mon Dieu, c'est le signe que notre économie, aujourd'hui, n'est plus capable d'affronter le choc de la production et qu'on est peut-être allé trop loin dans cette financiarisation de l'économie américaine. Mais cette financiarisation, c'est vraiment les choix de Ronald Reagan et qui sont passés notamment par des choix politiques drastiques et qui ont été très clairs au cœur de la Banque centrale de remonter les taux d'intérêt. Remonter les taux d'intérêt, ce qui est la grande décision de Paul Volcker, même avant l'arrivée de Reagan, mais qui vont se continuer après. Quand vous augmentez les taux d'intérêt, bah, ça empêche aux entreprises d'investir parce que ça coûte trop cher d'emprunter de l'argent. En revanche, ça crée une aspiration des capitaux du monde entier. Et dans les années 80, il y a à peu près deux tiers des surplus des capitaux du monde entier qui sont aspirés par la finance américaine, par la machine américaine. L'Amérique croule sous les dollars. L'Amérique croule, mais elle est, c'est une économie dite casino, une économie un peu fantôme, une économie hyper financiarisée et qui est propice évidemment à la fondation, à la création de bulles spéculatives. Et ces bulles spéculatives vont se multiplier à la fin de Reagan, et puis évidemment après Reagan, on est encore dans ce cycle-là, très clair, dans les pays occidentaux.
Et la politique économique de Reagan, donc baisse des impôts, contrôle strict de la monnaie et dérégulation sociale, dérégulation d'un tas de règles et administratives, ça porte ses fruits. Au bout d'environ 2 ans, il y a une vraie reprise, avec des périodes de récession quand même. Mais sur la durée, pendant les 2 mandats de Reagan, l'économie ira plutôt bien. Le bilan général sera bon. Simplement, dans ce bilan généralement bon, il y aura aussi quand même des gens qui n'en auront pas bénéficié, puisque le taux de pauvreté augmentera sous Reagan et qu'on va aussi assister au développement de ce phénomène des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent, mais qui néanmoins ont beaucoup de mal à se loger, ont beaucoup de mal à faire face à leurs dépenses. Donc globalement, ça marche. Et ça marche pas pour tout le monde. You know Reagan is for the rich man. Poor man ain't got no way. Rich people getting richer and poor people dying by the day. I'll be so glad, so glad, so glad when Ronald Reagan's term is done. I'd rather see him in a cowboy movie than in the White House in a political run. Well, Reagan, Reagan, Reagan for the rich man. Poor man ain't got no way. Rich people getting richer and poor people dying by the day. All right, King.
Le néolibéralisme est la voie qu'a également empruntée la première ministre de Grande-Bretagne, Margaret Thatcher.
Elle est née dans une famille, je disais, de classe moyenne et dans, au sein de laquelle les valeurs traditionnelles, ce qu'on appelle en France les valeurs victoriennes, étaient très présentes.
Philippe Chassaigne, historien, spécialiste de la Grande-Bretagne.
Son père était né au cours de l'ère victorienne et c'était donc un commerçant. Elle était de confession méthodiste et donc était très attachée aux valeurs d'épargne, de travail, d'effort, de moralité, de se prendre en charge, de progresser individuellement, hein, d'améliorer sa condition dans la vie de façon individuelle, sans attendre grand-chose d'intervention de l'État, puisque de toute façon, à l'époque victorienne, l'État britannique, il est quand même assez, son action sociale est des plus limitées. Et donc, ce milieu familial a joué un très grand rôle dans la constitution psychologique, dans l'armature intellectuelle de Margaret Thatcher.
Et c'est la politique économique de Thatcher, le libéralisme de la Dame de Fer, qui en fait servira de modèle à Reagan.
Lorsque Ronald Reagan arrive au pouvoir, il est élu en novembre 1980, pour lui, Margaret Thatcher, c'est un modèle. Ils s'étaient rencontrés quelques rares fois avant qu'elle ne devienne Premier ministre et lui président des États-Unis, mais leurs analyses convergeaient effectivement. Leur théorie politique était inspirée par deux économistes. Margaret Thatcher, c'était surtout Frédéric von Hayek, un économiste de l'école de Vienne qui enseignait à la London School of Economics et qui, dès 1944, avait publié un ouvrage intitulé « La route de la servitude » dans lequel il dénonçait les méfaits du socialisme. Évidemment, à l'heure du keynésianisme ambiant, les analyses de Hayek étaient réservées à un petit nombre de personnes qui les partageaient au sein de la société du Mont Pèlerin, mais il était très marginalisé. Et puis Hayek a eu le prix de Nobel d'économie en 1975, donc cela fait passer de l'ombre à la lumière, si vous voulez. Et Reagan, lui, était surtout inspiré par un autre économiste, mais qui était sur la même ligne que Hayek, qui était Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976. Reagan et Thatcher, à la suite de Hayek et Friedman, mettaient en avant la défense de la valeur de la monnaie, considéraient que la lutte contre l'inflation était plus importante que la lutte contre le chômage. Ils considéraient qu'une fois que l'inflation serait brisée, le chômage diminuerait, ce qui d'ailleurs passait dans les deux pays de façon parallèle. Donc priorité à la défense de la monnaie, la lutte contre l'inflation. Puis par ailleurs, Thatcher et Reagan étaient contre l'intervention excessive de l'État dans l'économie. Alors, l'intention de l'État dans l'économie, elle était beaucoup plus poussée en Grande-Bretagne dans les années 70 qu'aux États-Unis, parce que les travaillistes avaient, entre 1945 et 1951, puis de nouveau entre 1964 et 1970, avaient procédé à d'importantes nationalisations. Donc, ils considéraient que l'État devait se recentrer sur les missions régaliennes et laisser les acteurs économiques, enfin laisser le marché, quoi, assurer pleinement l'économie.
Aux États-Unis, l'épreuve de force a commencé entre Ronald Reagan et les aiguilleurs du ciel. Le chef de la Maison-Blanche menace de licencier les quelques 13 000 grévistes qui réclament de meilleurs salaires et des avantages sociaux. Leur mouvement est illégal et le patron de leur syndicat risque d'être arrêté.
Le 3 août 1981, les aiguilleurs du ciel aux États-Unis se mettent en grève. Ils revendiquent de meilleurs salaires, 32 heures de travail par semaine et un matériel plus moderne. Résultat ? Seule la moitié des vols sont assurés. La réponse de l'ancien syndicaliste Reagan est ferme. Il s'appuie sur la loi. Les aiguilleurs du ciel sont des fonctionnaires fédéraux et leur contrat stipule qu'ils ne peuvent pas faire grève contre l'État. Lors d'une conférence de presse, Ronald Reagan rappelle cette loi.
Permettez-moi de lire le serment solennel pris par chacun de ces employés quand ils ont accepté leur emploi. Je ne participe pas à une grève contre le gouvernement des États-Unis ou tout organisme de celui-ci. Et je n'y participerai pas tant que je serai employé du gouvernement des États-Unis ou d'une de ses agences. C'est pour cette raison que je dois dire à ceux qui ne se sont pas présentés au travail ce matin qu'ils violent la loi et que, s'ils ne se présentent pas au travail dans les 48 heures, ils auront perdu leur emploi et leur contrat seront résiliés. And will be terminated.
En conséquence, 11 000 travailleurs seront licenciés.
Quand il arrive au pouvoir, le syndicaliste a laissé la place à l'homme à la poigne qui ne supporte pas le syndicat, qui ne supporte pas la gauche.
Thomas Snegaroff.
Vraiment, il y a une haine de ce monde-là. Et quand les contrôleurs du ciel tentent la grève, la réponse, elle va être terrible. Ça va être de licencier tout le monde. C'est l'acte originel de Reagan. C'est ça. C'est à ce moment-là une espèce de fermeté totale face au monde du travail, les accusant de soutenir les démocrates, d'être des fainéants, surtout considérant que s'il cède là-dessus, il devra céder sur tout. Or, il a bien compris que sa politique de dérégulation, de déréglementation, de désintermédiation, de libéralisation, tous ces termes en sion, qui chacun veut dire des choses un peu différentes, ne pourra passer que par la mise au pas des contre-pouvoirs, notamment des contre-pouvoirs syndicaux. Et donc c'est ainsi effectivement que ce moment-là est un moment extrêmement fort symboliquement de la présidence Reagan.
La politique économique de Reagan, elle était aussi en phase avec la politique économique de Margaret Thatcher à la même époque.
Nicole Bacharan.
D'ailleurs, ces deux-là, Thatcher et Reagan, se sont bien entendus sur pas mal de dossiers, mais sur le plan économique, ils avaient un peu la même démarche ou des démarches proches, et notamment avec la volonté de casser les syndicats quand leur action leur semblait nuisible.
La guerre ouverte aux syndicats, la chasse aux assistés, l'explosion des traders, le culte de la performance, l'argent roi, ce sont les conséquences de cette politique économique enclenchée par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Dérégulée, défiscalisée, place au libre marché, d'autres dirigeants vont suivre cette voie.
Oui, Ronald Reagan devient le modèle à suivre. L'Amérique de Reagan fait rêver. On est vraiment dans des années très puissantes du rêve américain. Le rêve américain, c'est le cinéma hollywoodien et ses valeurs. Les valeurs d'individualisme, les valeurs de courage, les valeurs de self-made man, on est vraiment dans ces valeurs-là. Et l'Europe, notamment, regarde les États-Unis avec les yeux de chimère. Les États-Unis vont inspirer, même si parfois c'est un peu dans les deux sens, parce que Margaret Thatcher arrive au pouvoir avant Ronald Reagan, mais elle pense déjà, ils sont un peu dans la même façon de penser. Helmut Kohl, en Allemagne, la libéralisation, on va la retrouver même en France, alors qu'on a un président socialiste, mais qui regarde les États-Unis avec pas mal de fascination aussi. Et notamment la technologie américaine. À partir de 1983, le virage de la rigueur s'accompagne d'une forme de libéralisation de l'économie française. Et cette libéralisation, elle est aussi, même si elle sera encore plus forte en 1986 avec Jacques Chirac, quand en 1986 la cohabitation a lieu en France, là pour le coup, le modèle absolu, c'est les États-Unis. 1986, on regarde les États-Unis comme le modèle. On va privatiser, on va libéraliser, on va déréguler. Alain Madelin, ministre de l'économie et de l'industrie française, regarde les États-Unis comme un modèle. Jacques Chirac est quasiment un président à l'américaine, lui qui est Premier ministre en France. On est sur un modèle et ça se diffuse parfois, même dans des pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, là de manière beaucoup plus violente. Là, c'est moins par fascination que par obligation, parce que ce qui est intéressant dans ces années-là, et ça tient aussi à la politique de Ronald Reagan, c'est que lorsque les États-Unis vont augmenter les taux d'intérêt au début des années 80, les dettes des pays, notamment du Mexique, mais pas seulement, de tous les pays d'Amérique latine, vont devenir absolument intenables parce que libellées en dollars, qui en plus des dettes qui suivent le cours du dollar, elles vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chères à rembourser. Les pays du Sud vont entrer dans ce qu'on appelle un cycle de la dette, d'ailleurs mettant en danger des banques occidentales, notamment beaucoup de banques américaines qui vont devoir beaucoup aider ces pays-là. Mais à partir du moment où l'endettement va s'accentuer et les faillites, même d'États, vont se multiplier dans les pays d'Amérique latine et même en Afrique, à ce moment-là, vous allez avoir les grandes institutions internationales, qu'on appelle les prêteurs en dernier ressort, le FMI, la Banque mondiale, qui disent « Ok, on vous aide, mais à condition que vous appliquiez un ensemble de recettes. » Et ces recettes, évidemment, ce sont les recettes libérales que l'on trouve aux États-Unis. C'est ce que les économistes vont appeler le consensus de Washington. Pas par hasard, parce que c'est vraiment de Washington, la capitale fédérale américaine, que tout cela vient. Et c'est ainsi que ce modèle libéral américain va être diffusé. Alors, moins de manière volontaire qu'en Europe, plus de manière coercitive, voire avec une forme de chantage. Sous-entendu, les termes du chantage, c'est quoi? C'est si vous n'acceptez pas ces réformes-là, on ne vous aide pas à gommer ou à éponger ou à rééchelonner les dettes avec vos créanciers. Et donc, c'est ainsi que le réganisme, d'un point de vue économique, en fait, le libéralisme, le néolibéralisme, va s'étendre sur des tas de territoires qui en étaient très éloignés, idéologiquement et même géographiquement, en Afrique et surtout en Amérique latine.
Cette image d'une Amérique forte, viriliste, ce culte de la performance va s'inscrire dans la culture et notamment dans le cinéma hollywoodien. Les années 80 donneront naissance à une multitude de films devenus cultes, des films qui ont durablement marqué les esprits.
Dans les années 80, c'est un cinéma très très grand public qui va vraiment marquer durablement les esprits.
Dick Tomasovic, professeur d'histoire du cinéma et des arts audiovisuels à l'Université de Liège.
C'est-à-dire que ça va être le retour de l'ordre incarné. Tout d'un coup, une nouvelle foi dans le patriotisme américain. Ce sont, clairement, les années Reagan qui monte au pouvoir en 79, qui, faut-il le rappeler, est tout de même un ancien comédien d'Hollywood, lui justement dans la période classique, de films finalement assez mineurs, hein, plutôt de série B, mais qui a connu effectivement cette grandeur du cinéma classique hollywoodien, qui devient lui-même la star de son propre film en devenant ce fameux président. Bon, l'histoire nous a montré que chaque président, s'il n'a pas tous les pouvoirs, il ne peut pas tout changer, en tout cas, installe une forme d'atmosphère, hein, une forme de grande idéologie ou de crise de l'idéologie notamment. Hein. Celle de Reagan va aussi terriblement marquer les esprits et va être une sorte de sursaut, y compris dans la production cinématographique, de l'identité américaine, d'une forme de nouvelle affirmation après des années de crise, après ces années 70 marquées en effet par les grandes questions citoyennes, la guerre du Vietnam, etc. Dans les années 80, on va de nouveau affirmer cette Amérique forte, puissante, qui assume complètement ses goûts et assume aussi ses mauvais goûts, et sa superficialité, et ce seront finalement les années de reprise de vieux fantasmes hollywoodiens, c'est-à-dire refaire des studios puissants. Et on va donc faire des images qui exagèrent la force d'Amérique, qui l'amplifient jusqu'à la caricature. On va retrouver complètement finalement le système qui était en crise auparavant, mais de vouloir prononcer le film comme un objet pur de divertissement et de consommation. D'un point de vue narratif, on va beaucoup travailler sur l'importance du mythe, avec des aventures singulières, extraordinaires, avec des héros, des récits qui sont comme de véritables épopées, alors qu'on était plutôt sur les anti-héros auparavant, dans les années 70. On va travailler sur les archétypes, on va offrir une sorte de vision du monde à nouveau cohérente. Et on va, présupposer un ordre du monde dont le film doit faire la démonstration. Et donc on va retrouver un cinéma très très marqué idéologiquement, hein, qui reprend notamment ce grand langage biblique des pionniers de la fondation des États-Unis et donner l'impression d'une civilisation un petit peu élue, bénie, un cinéma beaucoup plus formaté et donc marqué idéologiquement par cette forme de patriotisme un petit peu arrogant.
C'est un peu l'époque des cinémas pop-corn.
Avec le cinéma popcorn, dans sa dimension très très forte des années 80, on va assister à ce qu'on appelle à l'explosion du blockbuster. Alors, le blockbuster, ça veut dire le pâté de maison que l'on fait exploser. Pourquoi ? Puisque c'est une pratique théâtrale, on se dit que tout d'un coup, quand il y a dans un théâtre un spectacle qui marche très très bien, il vide les autres théâtres. On a repris un peu cette image pour le cinéma, et aujourd'hui, quand on pense à blockbuster, c'est vraiment associé à l'industrie cinématographique. Ce sont des films qui sont là pour littéralement casser la baraque, si je puis dire, c'est-à-dire que ce sont des films qui sont faits pour vider les autres salles de cinéma, pour vider toute autre concurrence en faisant de ce film un événement complet, en attirant le plus grand public possible au même moment. Avec le blockbuster, on va d'abord rentabiliser la promotion sur l'ensemble du territoire, sortir le film quasi au même moment partout, donc en faire vraiment un film événement. Et puis ce qui va se produire, là c'est avec le film de Spielberg, Les Dents de la Mer, hein, Jaws, en 1975, suite à quelques péripéties, ce film sort finalement durant les mois d'été, et il va coller en quelque sorte à la diégèse même du film, hein, qui raconte en effet l'histoire d'une petite station balnéaire qui va se retrouver très vite terrifiée par une attaque de requins. Cette manière de coller en quelque sorte la période à la diégèse va marquer les esprits, on voit que les gens répondent très présents, on comprend peut-être que c'est une bonne période pour sortir des films, que le public va peu à peu profiter, en fait, puisque les salles vont s'équiper progressivement, de la climatisation aussi durant l'été. Et donc, on va offrir, comme ça, ça va devenir quasi une forme de tradition tout au long de la fin des années 70 et 80, des films qui vont correspondre à cette partie-là de l'année et à ce type d'exploitation. Peu à peu, cela va devenir, tout au long des années 80, la forme majeure du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire des films qui veulent une forme de rentabilité maximale, de manière immédiate, en jouant la carte du divertissement et du spectaculaire. Alors, une date phare, évidemment, c'est en 1977, avec le premier volet de Star Wars.
La Guerre des Étoiles, produit et réalisé par George Lucas, qui se considérait comme un fabricant d'images.
Cette manière de se présenter est très emblématique des années 80. On va avoir des cinéastes qui vont avant tout construire des images très fortes, des images qui ont une valeur quasi promotionnelle, publicitaire, puisque autour aussi de ces films, on va développer non seulement des objets dérivés qui vont reproduire les acteurs, les situations, les personnages, certaines scènes cultes un petit peu de ces films, mais on va assister à des campagnes de promotion très agressives aussi, très fabriquées, avec des images très léchées qui donnent systématiquement envie d'aller voir ces films, des films construits autour de quelques scènes fortes, des scènes fortes que l'on va un petit peu emporter en tête après, des scènes fortes dont on va profiter un petit peu comme un cinéma d'attraction, si je puis dire. Et donc, on est dans un cinéma qui fonctionne sur la fabrication d'images, peut-être plus que de sensations cinématographiques telles que les cinéastes de la génération précédente, des générations précédentes même, pouvaient les imaginer.
No, I am your father.
Search your feelings, you know it to be true.
Star Wars, qui est un film dans lequel d'ailleurs les producteurs ne croient pas spécialement, va être un énorme événement autour duquel va se cristalliser des imaginaires très divers qui mélangent toute une série de références diverses, issues bien sûr du cinéma, mais aussi de la littérature, des comics, des fameuses séries. Et on pense évidemment à Flash Gordon. Et ce que fait Lucas, c'est très emblématique de cette période, c'est qu'il est comme une éponge qui a absorbé comme ça des décennies de culture américaine et qui va compacter un petit peu le tout dans une intrigue qui est un grand récit initiatique tout à fait captivant. Et donc à partir de là, il y a toute une nouvelle génération de spectateurs qui va se retrouver complètement fascinée. En fait, avec Lucas se développe vraiment une forme de communauté aussi de spectateurs. C'est assez nouveau ça, avec des fans, des vrais fans qui très vite vont commencer à faire aussi des conventions dans les années 80, c'est-à-dire des rassemblements où ils se retrouvent pour partager leur passion, notamment à travers des produits dérivés, des costumes aussi, des jouets. Hein. Alors on le sait que George Lucas a construit sa fortune personnelle sur les produits dérivés de la Guerre des Étoiles, puisque pour la petite histoire, les producteurs croyant assez peu en son film et lui ayant quelques problèmes à imposer son autorité sur le tournage, ce tournage va être pour partie un peu catastrophique, va coûter plus cher que prévu, va allonger notamment son délai de tournage, et les producteurs refusant de financer, Lucas dit voilà, je supprime mon salaire, je vais jusqu'au bout de mon entreprise, mais en échange, vous me donnez absolument tous les droits sur tous les produits dérivés. Là, les producteurs, ne croyant pas en le film, signent aveuglément les choses. Et voilà, évidemment, la fortune de Lucas faite, puisque dès la sortie du film, il comprend le mouvement des spectateurs autour de ce film. On sait aujourd'hui la place que ces produits dérivés peuvent prendre dans la culture de divertissement, la culture populaire, qui est la nôtre. Aujourd'hui, évidemment, plus aucun producteur ne lâche le droit des produits dérivés, puisqu'on voit bien que c'est une manne absolument essentielle et importante.
Les années 80 voient aussi l'arrivée du magnétoscope et de la VHS, une autre forme de produit dérivé.
L'apparition de la vidéo va complètement bouleverser la donne.
Dick Tomasovich.
Je pense qu'elle est une révolution aussi importante par rapport à Hollywood que l'a été auparavant l'arrivée de la télévision et que l'est, par exemple aujourd'hui, si on compare l'arrivée des plateformes de streaming. Les vidéos, elles commencent à s'échanger à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est vraiment le moment où les foyers familiaux vont commencer à s'équiper individuellement de magnétoscopes, où les vidéoclubs vont se mettre en place. Alors c'est très important, pourquoi ? D'abord parce que ça va permettre aux spectateurs de domestiquer le film. Auparavant, si on aimait un film en salle, on savait qu'une fois qu'il serait déprogrammé, on ne le verrait plus. Ici, tout d'un coup, on va pouvoir retrouver des films. Ça va bouleverser complètement notre rapport, évidemment, au cinéma. Ça va bouleverser aussi, alors, il faut le dire peut-être, l'analyse de films, les études cinématographiques en général, puisqu'on pourra, à partir de ce moment-là, étudier et enseigner le cinéma en faisant des arrêts sur image, ce qui était une idée complètement improbable auparavant. Ça bouleverse aussi l'industrie, qui va comprendre évidemment que la carrière d'un film ne se termine plus désormais avec la fin de l'exploitation cinématographique. C'est-à-dire qu'un film va être produit dans l'idée maintenant qu'il peut connaître une deuxième, voire une troisième, une quatrième vie, par la suite, en location et puis évidemment les diffusions télévisuelles. Et je pense que c'est ce qui rend précisément le film des années 80 aussi culte, c'est que ce sont les premiers films à pouvoir bénéficier de cela. C'est-à-dire que les films qui vont faire un grand succès en salle vont devenir évidemment les stars des vidéoclubs juste après. Ce sont des films qu'on va voir et revoir. Et donc, ce sont des films qui vont peut-être s'installer beaucoup plus durablement, dans le fond, dans la mémoire cinéphilique, tout simplement parce qu'on a eu l'occasion d'avoir un accès beaucoup plus personnel et beaucoup plus intime au film. Et l'industrie qui comprend cet intérêt du marché secondaire, en quelque sorte, de cette sortie ensuite en vidéoclub, va leur permettre évidemment d'exploiter des grands titres, mais aussi d'exploiter de manière plus parallèle des films qui n'ont pas marché en salle et qui peuvent trouver un autre public en vidéoclub. Et puis peu à peu, même de penser à des films directement faits pour le marché de la vidéo. C'est évidemment le développement du film d'horreur peut-être un peu plus gore ou un peu plus crapoteux. Pour ceux qui aiment le film d'action, ce sera le film de pur baston, évidemment. Alors, c'est aussi une explosion de l'époque. Hein. C'est le film pornographique qui existe depuis un certain temps, mais qui va profiter complètement, évidemment, de la diffusion en vidéoclub pour développer une toute nouvelle industrie du cinéma très parallèle, mais très puissante économiquement aussi, hein, tout en étant tout à fait à la marge. Il y a vraiment comme ça une reconquête en quelque sorte de ces grandes catégories qu'on avait un petit peu oubliées et qui sont les films de genre.
En 1981, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue sort dans les salles. C'est le premier d'une longue série puisqu'il y aura 5 opus. Le deuxième sort en 1984, le troisième en 89, le quatrième en 2008 et le cinquième en 2021. C'est que les années 80 sont aussi à l'origine de ces films en série.
Je pense que George Lucas et Steven Spielberg sont évidemment les deux grands noms clés de ces années 80. Ils sont d'ailleurs très amis, bien sûr, et ont travaillé beaucoup ensemble, puisqu'ils vont tous les deux donner cette nouvelle vision de ce que peut être le cinéma populaire, un cinéma qui fonctionne sur des grands univers qui peuvent d'ailleurs connaître des suites, se prolonger au-delà du premier film et connaître des sequels. Lucas y pense beaucoup lorsqu'il fait La Guerre des Étoiles. D'ailleurs, il invente toute une saga déjà dont il propose juste un fragment avec ce premier épisode qui sera vite rebaptisé l'épisode 4, hein, comme on le sait. Et donc, c'est l'idée d'une saga à se développer. Il va refaire le coup avec Spielberg, cette fois-ci aux manettes pour Indiana Jones durant les années 80, qui sera une autre grande franchise et qui retrouve complètement l'univers d'aventure exotique qu'on retrouvait développé dans les séries des années 30. Donc, ce sont des univers plus larges en quelque sorte que le film lui-même qui fait rêver les spectateurs au-delà. Et puis, ce qui est important aussi de préciser, on l'aura compris, c'est que ce cinéma popcorn s'adresse aussi à un public plus jeune, réellement plus jeune, public qui va en bande au cinéma, entre copains, entre petits copains, petites copines aussi. Les parents vont progressivement, en fait, rester à la maison. C'est les teenagers qui vont faire le public cible du cinéma des années 80. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be.
En 1980, les deux volets de La Boum, ces films de Claude Pinoteau qui font découvrir la toute jeune Sophie Marceau, mettent en scène la vie des adolescents. C'est que, aussi bien en Europe qu'en Amérique, ce qui se passe dans les années 80, c'est que le cinéma s'adresse aussi, désormais, aux jeunes.
Ce qui est assez important, je crois, c'est le ciblage d'un nouveau public, qui est ce public de teenagers. Ce public d'adolescents, de jeunes gens, qui va se retrouver à la fois dans la salle et sur l'écran. De manière générale, l'âge des personnages, des protagonistes, s'est fortement rajeuni dans les années 80 sur l'écran. Mais on comprend aux années 80 aussi que c'est un nouveau cœur de cible de marché. C'est-à-dire que ce sont les jeunes qui vont avoir d'une part un pouvoir plus important au sein de la famille pour réclamer du divertissement et une culture qui est la leur, et donc faire craquer, en gros, si je puis dire, papa et maman pour l'achat de nouveaux objets. Et donc c'est lié évidemment à ce développement du produit dérivé dont on a parlé, donc ces jouets notamment autour de Star Wars par exemple, mais c'est l'arrivée des consoles de jeux vidéo dans la maison, c'est MTV qu'il faut avoir à la maison, c'est la mode, etc. etc. Et donc le cinéma américain hollywoodien va parler très très fortement à cette cible aussi, va participer à cette grande danse de séduction de la jeunesse en inscrivant évidemment des films qui leur parlent, des films qui sont avec des jeunes gens, qui racontent des histoires de jeunes gens, de premiers baisers, de premières aventures, de rites initiatiques, mais tout ça sur un mode très amusant. On n'aura jamais autant filmé les collèges, les lycées que dans les années 80, sans doute aussi. Mais cette cible, elle est vraiment très identifiée et elle va perdurer, puisque le cinéma encore s'adresse majoritairement à ce public-là aujourd'hui, hein, ce grand cinéma hollywoodien. Le cinéma des blockbusters est un cinéma très adolescent, si je puis dire, puisqu'il séduit par ses attractions, par ses émotions fortes, en quelque sorte, le regard des adolescents. Trilogie très importante, hein, à côté de la Guerre des Étoiles, à côté de Indiana Jones, de Spielberg et Lucas, c'est bien sûr Retour vers le futur, qui est d'ailleurs produit par Spielberg par ailleurs, qui est partout, évidemment sur les années 80, puisque ces trois films de Robert Zemeckis, qui mettent en vedette Michael J. Fox, sont des films que je trouve extrêmement emblématiques de ces années 80 par rapport à cette définition de la jeunesse. Ce sont des films d'abord qui mettent en scène évidemment un jeune adolescent qui va se retrouver, grâce à une amitié avec un professeur un peu farfelu, à voyager dans le temps pour essayer de sauver, finalement, c'est pas tout à fait l'univers, ses situations familiales et tout de même quelques répercussions sociétales. Et donc, il va remonter dans les années 50, et puis qui, à partir de ces années 80, va aussi, dans les autres épisodes, aller bien plus tard, en 2015, et puis retourner en troisième épisode, là, au début de la civilisation américaine, en quelque sorte, surtout en 1880, à l'époque du western. Et en fait, ces films, non seulement jouent évidemment d'une forme d'identification avec le personnage principal, qui fait du skateboard, qui écoute des musiques cool, enfin bon, c'est un reflet complet de l'adolescence, de la jeunesse de cette période, qui est ses baskets, sa petite amie, enfin, on a vraiment tous les grands stéréotypes de ce que doit être un adolescent aux années 80 montrés dans ce film. Mais surtout, l'ensemble de la trilogie va revisiter la culture populaire jeune américaine. C'est-à-dire que quand il retourne, pour ceux qui se souviennent du film, dans les années 50, pour en gros croiser ses parents, il se retrouve en fait au tout début de l'émergence de cette culture jeune, justement, et du rock'n'roll, qui va tenir une place assez importante et quelques belles scènes drôles dans le film. Et donc, on voit bien que Zemeckis, là, remonte et pointe, en quelque sorte, la source de ce qui est cette nouvelle grande culture jeune, à travers cette grande trilogie, qui va marquer vraiment la deuxième partie des années 80, qui s'adresse à la jeunesse, qui vise la jeunesse, qui parle de la jeunesse, et qui parle surtout de cette culture jeune, de cette culture divertissement, de cette pop culture dans laquelle on se promène allègrement, et qui en fait un film dans lequel on voit bien complètement ce qui se joue en termes de repères culturels à l'époque. Donc ce sont des films très, très emblématiques, je trouve, de ces années 80, et qui disent bien cette fascination aussi pour le temps qui passe. Il se joue dans ces années 80 quelque chose d'assez faramineux autour de la culture pop, puisque on comprend bien que des idoles comme Michael Jackson, mais des icônes aussi, comme même le président Reagan, est-ce qu'il va représenter, vont donner une image très particulière aux États-Unis de manière très durable.
Néolibéralisme, cinéma, Ronald Reagan aura été l'acteur de son rôle principal, celui de président des États-Unis.
Alors dites-moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985 ?
Ronald Reagan ?
Ronald Reagan, l'acteur ? Et qui est vice-président ? Jerry Lewis !
Ronald Reagan, il devient président un beau jour.
Thomas Snegaroff.
Lorsqu'au début de la primaire du Parti républicain, il y a un débat organisé entre les candidats, son principal adversaire, c'est George Bush, père. L'ancien patron de la CIA, figure très respectée du Parti républicain, plus jeune que lui.
Et Reagan aimerait un débat avec George Bush, mais la commission électorale refuse en disant qu'il faut qu'il y ait tous les candidats présents et personne ne s'intéresse à ce qu'il y ait tous les candidats présents pour un débat. Donc c'est Ronald Reagan qui va financer lui-même les micros, financer lui-même l'organisation pour qu'il y ait ce fameux débat dont il a besoin, parce qu'il a absolument besoin de montrer qu'il n'est pas si vieux, qu'il est fort, etc. Et donc vous avez une scène assez extraordinaire, où vous avez tous les personnages qui sont là, on est dans le New Hampshire, c'est un peu le bazar dans la salle, et Ronald Reagan veut parler, et on lui coupe son micro. Et là il se lève, il prend le micro dans la main, le micro est rallumé.
Mr. Green, you turn on my phone. You asked for me if you would... I am paying for this microphone, Mr. Green.
Et il dit « I am paying for that microphone ». Je paye pour ce microphone. Il montre à la fois qu'il est fort, qu'il ne se laisse pas faire. La foule l'applaudit. Et les sondeurs américains montrent qu'à ce moment-là, ça y est, Reagan est passé dans une autre catégorie. Il a montré qu'il était courageux, qu'il ne se laissait pas faire et que ce n'était pas le vieillard que ses adversaires voulaient dénoncer. Mais ce qui est encore plus passionnant, c'est que dans les jours qui suivent, on se rend compte que cette phrase-là, « j'ai payé pour ce micro », en fait, ça vient d'un film. Ça vient d'un film de Capra. Avec Spencer Tracy. Et il y a tout Reagan là-dedans. Il y a tout Reagan là-dedans. Le communicant génial et le type qui navigue en permanence entre la fiction et la réalité. Il a cité aussi des héros de la guerre. Il fait pleurer des gens. Il parle d'un mec qui a une médaille, etc. Les gens pleurent en face de lui. Après, on se rend compte que c'est pas vrai, c'est un film, en fait. Mais le mec le raconte comme si c'était vrai. Mais je pense qu'il y a un truc psychique très, très fort chez lui là-dessus. Quand il vient en 84 sur les côtes normandes pour rendre hommage aux soldats américains morts lors du débarquement, en fait, l'anniversaire du débarquement, il se met à pleurer en faisant le discours sur les gars de la pointe du Hoc. C'est très impressionnant. Et là, on se dit, c'est un comédien génial. En fait, c'est le plus grand président, peut-être, parce que c'était le plus grand comédien. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Ronald Reagan a des conseillers qui sont des conseillers en communication et non plus des conseillers politiques. Donc, il est vraiment entouré de gens qui lui construisent un discours de communicant davantage qu'un discours politique. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que Ronald Reagan, avant d'aller rencontrer les grands de ce monde, il fait des répétitions comme on ferait des répétitions au cinéma, avec des gens qui jouent des doublures. Lui, c'est François Mitterrand. Elle, c'est Margaret Thatcher. Et donc, il se prépare comme pour un rôle, en fait.